Chapitre 2. Les prisonniers du temple. La muraille était couverte de salpêtre. Une clarté fumeuse, jaunâtre, commençait à descendre dans la salle voûtée, creusée en sous-sol. Le prisonnier qui sommeillait, les bras repliés sous la barbe, frissonna et se dressa brusquement, hagard, le cœur battant. Il vit la brume du matin qui coulait par le soupirail. Il écouta. Distinct, bien qu'étouffé par l'épaisseur des murs, il percevait les cloches annonçant les premières messes. Cloches parisiennes de Saint-Martin, de Saint-Méry, de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Saint-Eustache et de Notre-Dame. Cloches campagnardes des villages de la Courtille, de Clignancourt et du Montmartre. Le prisonnier n'entendit aucun bruit qui pût l'inquiéter. C'était l'angoisse seule qui l'avait fait sursauter. Cette angoisse qu'il retrouvait à chaque réveil. Comme dans chaque sommeil, il retrouvait un cauchemar. Il prit sur le sol une écuelle de bois et y but une longue gorgée d'eau pour calmer cette fièvre qui ne le quittait pas depuis des jours et des jours. Ayant bu, il laissa l'eau reposer et se pencha sur elle comme sur un miroir. L'image qu'il parvint à saisir, imprécise et sombre, était celle d'un centenaire. Il demeura ainsi quelques instants, cherchant ce qui pouvait rester de son ancienne apparence dans ce visage flottant, cette barbe d'ancêtre, ces lèvres avalées par la bouche édentée, ce long nez amaigri qui tremblait au fond de l'écuelle. Puis il se leva, lentement, et fit deux pas jusqu'à ce qu'il sentît se tendre la chaîne qui le liait à la muraille. Alors il se mit brusquement à hurler. « Jacques de Molay ! Jacques de Molay ! Je suis Jacques de Molay !» Rien ne lui répondit. Rien, il le savait, ne devait lui répondre. Mais il avait besoin de crier son propre nom, pour empêcher son esprit de se dissoudre, pour se rappeler qu'il avait commandé des armées, gouverné des provinces, qu'il avait détenu une puissance égale à celle des souverains, et que tant qu'il garderait un souffle de vie, il continuerait d'être, même dans ce cachot, le grand maître de l'ordre des chevaliers du temple. Par un surcroît de cruauté ou de dérision, il s'était vu assigner pour prison une salle basse de la grande tour de l'hôtel du temple, la maison mère de l'ordre. « Et c'est moi qui ai fait rénover cette tour !» murmura le grand maître avec colère, en frappant du poing la muraille. Son geste lui arracha un cri. Il avait oublié son pouce écrasé par les tortures. Mais quelle était la place de son corps qui ne fut pas une plaie, ou le siège d'une douleur? Le sang circulait mal dans ses membres, et il souffrait d'abominables crampes depuis qu'on l'avait soumis au supplice des brodequins. Les jambes enfermées dans les planches de chêne, que les tourmenteurs resserraient en enfonçant des coins à coups de maillet, il entendait la voix froide, insistante, de Guillaume de Nogaret, le garde des sceaux du royaume, qui l'engageait à avouer. À avouer quoi? Il s'était évanoui. Sur ses chairs lacérées, déchirées, la crasse, l'humidité, le manque de nourriture avaient fait leur œuvre. Mais de toutes les tortures endurées, la plus horrible certainement avait été celle de l'étirement. Un poids de 180 livres attaché au pied droit, on l'avait hissé par une corde à poulie jusqu'au plafond. Et toujours la voix sinistre de Guillaume de Nogaret. « Mais avouez donc, messire !» Et comme il s'obstinait à nier, on avait tiré toujours plus fort, toujours plus vite, du sol aux voûtes. Sentant ses membres se disjoindre, ses articulations s'arracher, son ventre, sa poitrine éclater, il avait fini par crier qu'il avouait, oui, tout, n'importe quel crime, tous les crimes du monde. Oui, les Templiers se livraient entre eux à la sodomie. Oui, pour entrer dans l'ordre, ils devaient cracher sur la croix. Oui, ils adoraient une idole à tête de chat. Oui, ils s'adonnaient à la magie, à la sorcellerie, au culte du diable. Oui, ils détournaient les fonds qui leur étaient confiés. Oui, ils avaient fomenté un complot contre le pape et le roi. Et quoi d'autre encore? Jacques de Molay se demandait comment il avait pu survivre à tout cela. Sans doute parce que les tourments, savamment dosés, n'avaient jamais été poussés jusqu'au point qu'il en dut mourir. Et aussi parce qu'un vieux chevalier, entraîné aux armes et à la guerre, avait plus de résistance qu'il ne l'eût cru lui-même. Il s'agenouilla, les yeux tournés vers le rayon de clarté du soupirail. « Seigneur, mon Dieu » prononça-t-il. « Pourquoi m'avez-vous mis moins de force dans l'âme que dans la carcasse ? Étais-je bien digne de commander l'ordre? Vous ne m'avez pas évité de tomber dans la lâcheté. Épargnez-moi, Seigneur Dieu, de tomber dans la folie. Je ne saurais guère tenir davantage. Je ne saurais guère. Enchaîné depuis 7 années, il ne sortait que pour être traîné devant les commissions d'enquête et subir toutes les menaces des légistes, toutes les pressions des théologiens. On pouvait bien, à pareil régime, craindre de devenir fou. Souvent, le grand maître perdait la notion du temps. Pour se distraire, il avait essayé d'apprivoiser un couple de rats qui venaient chaque nuit ronger les restes de son pain. Il passait de la colère aux larmes, des crises de dévotion au désir de violence, de l'hébétude à la fureur. « Ils en crèveront, » se répétait-il. « Qui crèverait ? Clément, Guillaume, Philippe, le pape, le garde des Sceaux, le roi. Ils mourraient. » Mollet ne savait comment, mais sûrement dans des souffrances abominables, pour expier leurs crimes. Et ils remâchaient sans cesse leurs 3 noms abhorrés. Toujours à genoux et la barbe vers le soupirail, le grand maître murmura. « Merci, Seigneur mon Dieu, de m'avoir laissé la haine. C'est la seule force qui me soutienne encore. » Il se releva avec peine et regagna le banc de pierre, cimenté à la muraille, et qui lui servait à la fois de siège et de lit. Qui aurait pu jamais imaginer qu'il en arriverait là? Sa pensée le reportait constamment vers sa jeunesse, vers l'adolescent qu'il avait été 50 ans plus tôt, et qui descendait les pentes de son Jura natal pour courir la grande aventure. Comme tous les cadets de noblesse à cette époque, il avait rêvé d'endosser le long manteau blanc à croix noire qui constituait l'uniforme du temple. Le seul nom de Templier évoquait alors l'Orient et l'épopée, les navires aux voiles gonflées cinglant sur des mers toujours bleues, les charges au galop dans des pays de sable, les trésors d'Arabie, les captifs rançonnés, les villes enlevées et pillées, les châteaux forts gigantesques. On racontait même que les Templiers avaient des ports secrets d'où ils s'embarquaient pour des continents inconnus. Et Jacques de Molay avait vécu son rêve. Il avait navigué. Il avait combattu et habité de grandes forteresses blondes. Il avait marché fièrement dans des rues qui sentaient les épices et l'encens, vêtu du superbe manteau dont les plis tombaient jusqu'à ses éperons d'or. Il s'était élevé dans la hiérarchie de l'ordre plus haut qu'il n'eût jamais osé l'espérer, franchissant toutes les dignités pour être enfin porté, par le choix de ses frères, à la fonction suprême de grand maître de France et d'outre-mer, et au commandement de 15 000 chevaliers. Et tout cela aboutissait à cette cave, cette pourriture, ce dénuement. Peu de destins montraient une si prodigieuse fortune, suivie d'un si grand abaissement. Jacques de Molay, à l'aide d'un maillon de sa chaîne, traçait dans le salpêtre du mur de vagues traits qui figuraient les lettres de Jérusalem, lorsqu'il entendit des pas lourds et des bruits d'armes dans l'étroit escalier qui descendait à son cachot. L'angoisse à nouveau l'étreignit, mais cette fois motivée. La porte grinça en s'ouvrant. Mollet aperçut, derrière le geôlier, 4 archers en tunique de cuir et la pique à la main. Leur haleine s'épanouissait, blanche, autour de leur visage. « Nous venons vous chercher, messire, » dit l'un d'eux. Mollet se leva sans prononcer un mot. Le geôlier s'approcha, et à grands coups de marteau et de burin, fit sauter le rivet qui reliait la chaîne au bracelet de fer dans lesquels étaient enfermées les chevilles du prisonnier. Celui-ci serra sur ses épaules décharnées son manteau de gloire, qui n'était plus maintenant qu'une guenille grisâtre. La croix sur l'épaule s'en allait en lambeaux. Dans ce vieillard épuisé, chancelant, qui gravissait, les pieds alourdis par les fers, les marches de la tour, il restait encore quelque chose du chef de guerre qui, de Chypre, commandait à tous les chrétiens d'Orient. « Seigneur, mon Dieu, donnez-moi la force, » murmurait-il intérieurement. « Donnez-moi un peu de force. » Et pour trouver cette force, il se répétait les noms de ses 3 ennemis. Clément, Guillaume, Philippe. La brume emplissait la vaste cour du temple, encapuchonnait les tourelles du mur d'enceinte, se glissait entre les créneaux, ouatait la flèche de l'église de l'ordre. Une 100aine de soldats se tenaient l'arme au pied, entourant un grand chariot ouvert et carré. Par-delà les murailles, on entendait la rumeur de Paris et parfois le hennissement d'un cheval s'élevait avec une tristesse déchirante. Au milieu de la cour, messire Alain de Pareil, capitaine des archers du roi, l'homme qui assistait à toutes les exécutions, qui accompagnait tous les condamnés vers les jugements et les supplices, marchait à pas lents, le visage fermé par un grand air d'ennui. Ses cheveux couleur d'acier retombaient en mèches courtes sur son front carré. Il portait la cotte de maille, une épée au côté, et tenait son casque au creux du bras. Il se retourna en entendant sortir le grand maître, et celui-ci, l'apercevant, se sentit pâlir, si pâlir lui était encore possible. D'ordinaire, pour les interrogatoires, on ne déployait pas si grand appareil. Il n'y avait ni ce chariot ni tous ces hommes d'armes. Quelques sergents royaux venaient quérir les accusés pour les passer en barque de l'autre côté de la Seine, le plus souvent à la nuit tombante. « Alors ces choses jugées ?» demanda Mollet au capitaine des archers. « Cela est, messire, » répondit celui-ci. « Et savez-vous, mon fils, » dit Mollet après une hésitation, « ce que contient le jugement ?»«
Je l'ignore, messire. J'ai ordre de vous conduire à Notre-Dame pour en entendre lecture. »
Il y eut un silence, puis Jacques de Mollet dit encore.
« Quel jour nous trouvons-nous ? »
« Le lundi après la Saint-Grégoire. » Ce qui correspondait au 18 mars, le 18 mars 1314.
« Est-ce à la mort que l'on me mène ?» se demanda Mollet.
La porte de la tour s'ouvrit à nouveau, et escortés de gardes, trois autres dignitaires apparurent. Le visiteur général, le précepteur de Normandie, le commandeur d'Aquitaine. Les cheveux blancs, eux aussi, la barbe broussailleuse, le corps flottant dans leur manteau en haillons. Ils restèrent immobiles un moment, les paupières battantes, et pareils à de grands oiseaux de nuit que la lumière empêche de voir. Ce fut le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay, qui, le premier, s'empêtrant dans ses fers, se précipita vers le grand maître et l'étreignit. Une longue amitié unissait les deux hommes. Jacques de Mollet avait fait toute la carrière de Charnay, de 10 ans son cadet, et dans lequel il voyait son successeur. Charnay avait le front entaillé d'une profonde cicatrice, et le nez dévié, reste d'un combat ancien où un coup d'épée avait entamé son home. Cet homme rude, au visage modelé par la guerre, vint enfoncer son front dans l'épaule du grand maître, pour cacher ses larmes.
« Courage, mon frère, courage !» dit Mollet en le serrant dans ses bras. « Courage, mes frères !»
répéta-t-il en donnant ensuite l'accolade aux deux autres dignitaires. Un geôlier s'approcha.
« Vous avez le droit d'être défergé, messire, » dit-il.
Le grand maître écarta les mains d'un geste amer et las.
« Je n'ai pas le denier, » répondit-il.
Car pour qu'on leur ôtât leur fer, à chaque sortie, les Templiers devaient donner un denier sur le sou qui leur était journellement alloué et avec lequel ils étaient censés payer leur ignoble nourriture, la paille de leur geôle et le lavage de leur chemise. Supplémentaire cruauté, et bien dans la manière procédurière de Nogaret. Ils étaient inculpés, non condamnés. Ils avaient droit à une indemnité d'entretien, mais calculée de telle sorte qu'ils jeûnaient 4 jours sur 8, dormaient sur la pierre et pourrissaient dans la crasse. Geoffroy de Charnay prit dans une vieille bourse de cuir pendue à sa ceinture les 2 deniers qui lui restaient et les jeta sur le sol. Un pour ses fers, un pour ceux du grand maître.
« Mon frère !» dit Jacques de Mollet avec un geste de refus.
« Pour le service qu'il me ferait à présent ?» répondit Charnay.
« Acceptez, mon frère. Je n'y ai même pas de mérite.
Si l'on nous déferge, c'est peut-être bon signe, » dit le visiteur général. « Peut-être le pape a-t-il décidé notre grâce ?»
Les dents qui lui restaient, inégalement brisées, rendaient sa parole suintante, et il avait les mains gonflées et tremblantes. Le grand maître haussa les épaules et montra les 100 archers alignés.
« Préparons-nous à mourir, mon frère, » répondit-il.
« Voyez, voyez ce qu'ils m'ont fait !» gémit le commandeur d'Aquitaine en relevant sa manche.
« Nous avons tous été tourmentés, » dit le grand maître.
Il détourna les yeux, comme chaque fois qu'on lui rappelait les tortures. Il avait cédé, il avait signé de faux aveux et ne se le pardonnait pas. Il parcourut du regard l'immense enceinte qui avait été le siège et le symbole de la puissance du temple.
« Pour la dernière fois, » pensa-t-il.
Pour la dernière fois, il contemplait cet ensemble formidable, avec son donjon, son église, ses palais, ses maisons, ses cours et ses vergers, véritable ville forte en plein Paris. C'était là que les Templiers, depuis 2 siècles, avaient vécu, prié, dormi, jugé, compté, décidé de leurs expéditions lointaines. C'était là que le trésor du royaume de France, confié à leur garde et à leur gérance, avait été longtemps déposé. Et là aussi, après les désastreuses expéditions de Saint-Louis, après la perte de la Palestine et de Chypre, qu'ils étaient rentrés, traînant à leur suite leurs écuyers, leurs mulets chargés d'or, leur cavalerie de chevaux arabes, leurs esclaves noirs. Jacques de Molay revoyait ce retour de vaincu qui conservait encore une allure d'épopée. « Nous étions devenus inutiles, et nous ne le savions pas, » pensait le grand maître. « Nous parlions toujours de nouvelles croisades et de reconquêtes. Nous avions peut-être gardé trop de morgues et de privilèges, sans plus les justifier. » De milices permanentes de la chrétienté, ils étaient devenus les banquiers tout-puissants de l'Église et des rois. À entretenir beaucoup de débiteurs, on se crée beaucoup d'ennemis. Ah, certes, la manœuvre royale avait été bien conduite. On pouvait dater l'origine du drame, en vérité, du jour où Philippe le Bel avait demandé à faire partie de l'ordre dans l'intention évidente d'en devenir le grand maître. Le chapitre avait répondu par un refus distant et sans appel. « Ai-je eu tort ?» se demandait Jacques de Molay pour la 100e fois. « N'ai-je pas été trop jaloux de mon autorité ? Mais non, je ne pouvais agir autrement. Notre règle était formelle et nous interdisait d'admettre aucun prince souverain dans nos commanderies. » Le roi Philippe n'avait jamais oublié cet échec. Il avait commencé par ruser, continuant d'accabler Jacques de Molay de faveur et d'amitié. Le grand maître n'était-il pas le parrain d'un de ses enfants ? Le grand maître n'était-il pas le soutien du royaume ? Mais bientôt, une ordonnance transférait le trésor royal de la tour du Temple à la tour du Louvre. En même temps, une sourde, une venimeuse campagne de dénigrement était montée contre les Templiers. On disait et faisait dire dans les lieux publics et les marchés qu'ils spéculaient sur les grains, qu'ils étaient responsables des famines, qu'ils songeaient davantage à grossir leurs biens qu'à reprendre aux païens le tombeau du Christ. Comme ils avaient le rude langage des militaires, on les accusait d'être blasphémateurs. On avait fait locution d'usage du terme « juré comme un templier ». De blasphémateur à hérétique, la distance est brève. On affirmait qu'ils avaient des mœurs hors nature et que leurs esclaves noirs étaient des sorciers. Bien sûr, tous nos frères ne se conduisaient pas en saint, et à beaucoup, l'inaction ne valait guère. On disait surtout qu'au cours des cérémonies de réception, on obligeait les néophytes à renier le Christ, à cracher sur la croix, et qu'on les soumettait à des pratiques obscènes. Sous le prétexte de mettre fin à ces rumeurs, Philippe avait offert au grand maître, pour l'honneur de l'ordre, d'ouvrir une enquête. « Et j'ai accepté, » pensait Molay. « J'ai été abominablement abusé. J'ai été trompé. » Car un jour d'octobre 1307, comme Molay se souvenait de ce jour-là, c'était un vendredi 13. La veille encore, il m'embrassait et m'appelait son frère, en me donnant la première place aux obsèques de sa belle-sœur, l'impératrice de Constantinople. Donc, le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe, par un gigantesque coup de filet policier préparé de longue main, faisait arrêter à l'aube tous les Templiers de France, au nom de l'Inquisition, sous l'inculpation d'hérésie. Et le garde des Sceaux Nogaret venait lui-même se saisir de Jacques de Molay et des 140 chevaliers de la maison mère. Un ordre fut lancé qui fit sursauter le grand maître. Les archers serraient les rangs. Messire Alain de Pareil avait coiffé son casque. Un soldat tenait son cheval et lui présentait l'étrier. « Allons, » dit le grand maître. Les prisonniers furent poussés vers le chariot. Molay monta le premier. Le commandeur d'Aquitaine, l'homme qui avait repoussé les Turcs à Saint-Jean-d'Acre, semblait frappé d'hébétude. Il fallut le hisser. Le visiteur général remuait les lèvres sans arrêt. Lorsque Geoffroy de Charnay grimpa à son tour dans la voiture, un chien invisible se mit à hurler quelque part du côté des écuries. Puis, tiré par 4 chevaux de fil, le lourd chariot s'ébranla. Le grand portail s'ouvrit et une immense clameur s'éleva. Plusieurs centaines de personnes, tous les habitants du quartier du Temple et des quartiers voisins, s'écrasaient contre les murs. Les archers de tête durent s'ouvrir chemin à coups de manche de pique. « Place aux gens du roi !» criaient les archers. Droit sur son cheval, l'air impassible et toujours ennuyé, Alain de Pareil dominait le tumulte. Mais quand les Templiers parurent, la clameur tomba d'un coup. Devant ces quatre vieux hommes décharnés, que le chaos des roues pleines jetait les uns contre les autres, les Parisiens eurent un moment de stupeur muette, de compassion spontanée. Puis il y eut des cris. « À mort ! À mort, les hérétiques !» lancés par des sergents royaux mêlés à la foule. Alors, les gens qui sont toujours prêts à crier avec le pouvoir et à faire les orageux quand ils ne risquent rien, commencèrent un beau concert de gueules.
« À mort ! Voleurs ! Idolâtres ! Voyez-les ! Ils ne sont plus si fiers aujourd'hui, ces païens ! À mort !»
Insultes, moqueries, menaces s'élevaient le long du cortège. Mais cette fureur restait maigre. La plus grande partie de la foule continuait à se taire, et son silence, pour prudent qu'il fût, n'en était pas moins significatif. Car, en 7 ans, le sentiment populaire s'était modifié. On savait comment avait été conduit le procès. On avait vu des Templiers, à la porte des églises, montrer aux passants les os qui leur étaient tombés du pied après les tortures. On avait vu, dans plusieurs villes de France, mourir les chevaliers par dizaines sur les bûchers. On savait que certaines commissions ecclésiastiques s'étaient refusées à prononcer les condamnations, et qu'il avait fallu y nommer de nouveaux prélats, comme le frère du Premier ministre Marigny, pour accomplir cette besogne. On disait que le pape Clément V lui-même n'avait cédé que contre son gré, parce qu'il était dans la dépendance du roi, et qu'il avait craint de subir le même sort que son prédécesseur, le pape Boniface, giflé sur son trône. Et puis, en ces 7 ans, le blé ne s'était pas fait plus abondant, le pain avait encore enchéri, et il fallait bien admettre que ce n'était plus la faute des Templiers. 25 archers, l'arc en bandoulière et la pique sur l'épaule, marchaient devant le chariot. 25 allaient sur chaque flanc, et autant fermaient le cortège. Ah, si seulement il nous restait un peu de force au corps, pensait le grand maître. À 20 ans, il eût sauté sur un soldat, lui eût arraché sa pique et eût tenté de s'échapper, ou bien se fût battu sur place jusqu'à la mort. Derrière lui, le frère visiteur marmonnait entre ses dents cassées.
« Ils ne nous condamneront pas. Je ne peux pas croire qu'ils nous condamnent. Nous ne sommes plus dangereux. »
Et le commandeur d'Aquitaine, émergeant de son hébétude, disait
« C'est bonne chose de sortir. C'est bonne chose de respirer l'air frais, n'est-ce pas, mon frère ?»
Le précepteur de Normandie toucha le bras du grand maître.
« Messire, mon frère, dit-il à voix basse, je vois des gens pleurer dans cette foule et d'autres faire le signe de la croix. Nous ne sommes point seuls dans notre calvaire.
Ces gens-là peuvent nous plaindre, mais ils ne peuvent rien pour nous sauver, répondit Jacques de Molay. Ce sont d'autres visages que je cherche. Le précepteur comprit l'espérance ultime, insensée, à laquelle le grand maître se raccrochait. Instinctivement, il se mit lui aussi à scruter la multitude. Car parmi les 15 000 chevaliers du Temple, un nombre appréciable avait échappé aux arrestations de 1307. Les uns s'étaient réfugiés dans les couvents, d'autres s'étaient défroqués et vivaient clandestins dans les campagnes ou les villes. D'autres encore avaient gagné l'Espagne, où le roi d'Aragon, refusant d'obéir aux injonctions du roi de France et du pape, avait laissé aux Templiers leur commanderie et fondé avec eux un nouvel ordre. Il y avait ceux également que certains tribunaux relativement cléments avaient confiés à la garde des hospitaliers. Beaucoup de ces anciens chevaliers demeurés en liaison avaient constitué une sorte de réseau secret. Et Jacques de Molay se disait que peut-être un complot s'était-il monté. Peut-être qu'en un point du parcours, au coin de la rue des Blancs-Manteaux, ou de la rue de la Bretonnerie, ou du cloître Saint-Méry, un groupe d'hommes allait surgir, et sortant des armes de dessous leurs côtes, fondre sur les archers, tandis que d'autres conjurés, postés aux fenêtres, lanceraient des projectiles. Avec une charrette poussée en travers de la chaussée, on pouvait bloquer la voie et compléter la panique. Et pourquoi nos anciens frères feraient-ils cela ? Pensa Molay. Pour délivrer leur grand maître qui les a trahis, qui a renié l'ordre, qui a cédé aux tortures. Pourtant, il s'obstinait à observer la foule le plus loin qu'il pouvait, et il n'apercevait que des pères de famille qui avaient hissé leurs petits-enfants sur leurs épaules. Des enfants qui, plus tard, quand on prononcerait devant eux le nom de Templiers, ne se souviendraient que de 4 vieillards barbus et grelottants, encadrés de gendarmes comme des malfaiteurs publics. Le visiteur général continuait de parler tout seul, en chuintant, et le héros de Saint-Jean-d'Acre de répéter qu'il faisait bon se promener matin. Le grand maître sentit se former en lui une de ces colères à demi démentes qui le saisissaient si souvent dans sa prison et le faisaient hurler en frappant les murs. Il allait sûrement accomplir quelque chose de violent et de terrible. Il ne savait quoi, mais il avait besoin de l'accomplir. Il acceptait sa mort, presque comme une délivrance. Mais il n'acceptait pas de mourir injustement, ni de mourir déshonoré. La longue habitude de la guerre remuait une dernière fois son vieux sang. Il voulait mourir en se battant. Il chercha la main de Geoffroy de Charnay, son ami, son compagnon, le dernier homme fort qu'il eut à côté de lui, et il étreignit cette main. Le précepteur de Normandie vit sur les tempes creusées du grand maître les artères qui se gonflaient comme des couleuvres bleues. Le cortège atteignait le pont Notre-Dame.